Bon, on va continuer notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste. Nous sommes rendus au chapitre 7. On va regarder aujourd'hui les versets 15 à 22. Ecclésiaste, chapitre 7, versets 15 à 22. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Alors, j'ai donné comme titre au sermon d'aujourd'hui, « La vie du juste et celle du méchant, quelques observations ». Donc, on va regarder 3 idées. La première, c'est le sort du juste qui est parfois similaire à celui du méchant, dans le verset 15. Et la deuxième idée, c'est que les excès sont à éviter et la crainte de Dieu à adopter, versets 16 à 18. Et la troisième idée, c'est celle que l'avantage du juste et ses limites, dans le verset 19 à 22. Alors, on sait que le roi Salomon est éminemment qualifié comme observateur de sa propre vie et de celle des hommes en général. Le Seigneur l'a doté d'une grande intelligence et d'une grande sagesse humaine. Ses observations sont basées sur ce qu'il a personnellement expérimenté tout au cours de sa vie en général, et plus particulièrement durant sa période d'éloignement et de désobéissance au Seigneur. Sa conclusion a toujours été la même. Les tentatives humaines, tant les siennes que celles des autres, d'essayer de connaître le bonheur terrestre sans la crainte de Dieu et son obéissance, sont futiles, vaines et folles. Le mot qui résume le tout est vanité. On lit par exemple dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, où Salomon va dire « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Alors le mot « vanité » au singulier ou « vanité » au pluriel, juste dans ce petit verset-là, est utilisé 5 fois. La phrase, bien entendu, est audacieuse, universelle et utilise le superlatif pour exprimer l'extrême, le plus haut degré possible. Salomon a été sensibilisé à son péché et à ses égarements, et aussi à celui des autres. Nous avons avantage à nous rappeler le sens profond du mot « vanité ». Salomon a compris que la vie sans Dieu est insignifiante et inconsistante. C'est le mot utilisé par les auteurs bibliques lorsqu'ils veulent parler de la fragilité de l'homme. L'homme ne dure que le temps d'un souffle, une réalité éphémère, une vapeur du vent. Le mot hébreu, traduit traditionnellement par « vanité », désigne souvent ce qui est insignifiant, futile, vain, passager, fragile et dérisoire. Le pasteur Mario Veilleux, dans son livre « Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu », avec sous-titre « Perles bibliques sur un thème inconnu mais capital », donne une définition très claire sur le sens du mot « vanité ». Alors, je le cite, « Vanité des vanités est un superlatif hébraïque qui veut dire suprême vanité. Le mot vanité évoque les idées suivantes. Une nuée qui s'évanouit, une buée, l'inconstance, la fragilité, un souffle, une muraille qui flanche, un mur qui se renverse, la futilité, rien n'est digne de confiance, rien n'a vraiment de poids. Aucun effort n'aboutira à une satisfaction durable. Les joies les plus profondes sont fugitives. Alors, examinons les sages observations de Salomon. La première observation, c'est que dans le verset 15, c'est vraiment l'idée, c'est le sort du juste est parfois similaire à celui du méchant. On le relit, le verset 15, « J'ai vu tout ceci pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et il y a tel méchant qui prolonge ses jours dans sa méchanceté. » Alors, quand on regarde la première partie du verset 15, on voit que c'est une observation personnelle de lui-même, Salomon, parce qu'il dit « J'ai vu tout ceci durant les jours de ma vanité. » Alors, nous remarquons le côté personnel par les mots « j'ai vu » et « de ma vanité ». Nous voyons aussi le côté universel par les mots « tout ceci ». Le côté permanent de son observation est constaté par les mots « pendant les jours ». Durant la première partie de sa vie, Salomon a été puissamment béni parce qu'il cherchait Dieu et il voulait de la sagesse pour bien gouverner Israël. Dieu lui a accordé la plus grande sagesse qu'un homme puisse avoir, en plus de lui donner la richesse, le prestige et la paix dans son royaume. Dans la deuxième partie de sa vie, il a désobéi aux lois de l'Éternel par la polygamie, l'idolâtrie et l'orgueil. Providentiellement, le Seigneur lui a fait voir toute sa folie et celle des hommes en général. Le Seigneur lui a démontré sa désapprobation des péchés et il l'a jugé. Donc, on peut se rappeler que si on va dans le premier livre du roi, au chapitre 11, les versets 9 à 11, 14, 23 et 26. Alors, on va lire 9 à 11, ensuite 14, ensuite 23, ensuite 26. On sait que le jugement du Seigneur suite à son péché, ça a été le déchirement de son royaume et aussi que le Seigneur lui suscite des ennemis. Alors, on va lire 9 à 11, dans 1 Roi, chapitre 11. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Ensuite, on va lire les versets 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, de la race royale d'Édom. On va lire les versets 23. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Éliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Tsoba. Et aussi, le verset 26 qui dit « Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tsérua. » Alors on voit que l'Éternel lui dit lui-même va déchirer le royaume, ensuite il va lui susciter des ennemis et même son propre fils. Donc on a vu que le verset 15, on voit que c'est une observation personnelle, Mais on voit aussi qu'il fait la première partie du verset 15, on pourrait le dire 15b, il dit « Il y a tel juste qui périt dans sa justice ». Le fait d'être un juste ne nous épargne pas nécessairement de toutes les afflictions de la vie et de la violence des hommes. Si on retourne, par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, verset 8, ça dit « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Les Saintes Écritures et l'histoire de l'Église nous confirment ce fait. Alors on peut lire par exemple dans Ésaïe chapitre 59, verset 15, « La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. » Et on peut aller dans un passage du Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 23, les versets 34 et 35. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Donc, on a une observation personnelle, une observation aussi particulière concernant le sort du juste. Maintenant, la dernière partie du verset 15, c'est une observation aussi particulière, mais qui concerne le méchant. Et il dit dans la dernière partie du verset 15, « Et il y a tel méchant qui prolonge ses jours dans sa méchanceté. » Les Écritures nous enseignent que l'Éternel, parfois, permet que le méchant n'atteigne pas la moitié de ses jours. Dans le psaume 55, verset 23, ça dit « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leurs jours. C'est en toi que je me confie. » Cependant, le Seigneur permet aussi que le méchant vive vieux et dans la prospérité. On peut lire dans le chapitre 21 du livre de Job, les versets 7 à 9. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Alors, ce qu'on se doit de remarquer dans, à l'intérieur des deux choses qui sont affirmées dans le verset 15, c'est que le Seigneur exerce sa souveraineté de façon imprévisible et mystérieuse. On lit par exemple dans Romains, chapitre 9, verset 22, « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? » Nous devons garder à l'esprit ce que le Seigneur nous dit à propos de sa justice qui s'exercera immuablement, mais au jugement général. Juste faire la remarque que le Seigneur, il dit que des fois, le juste et le méchant ont un sort qui peuvent se ressembler. Mais ici, on a le passage d'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, qui nous montre que même si le méchant prolonge ses jours, qu'il est dans la prospérité, et qu'il ne semble pas y tomber de jugement sur lui, c'est que le jugement va arriver, mais immuablement, mais au jugement général. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Deuxième idée qu'on va regarder, c'est celle des versets 16 à 18. C'est les excès sont à éviter et la crainte de Dieu à adopter. On va regarder le verset 16, d'abord, les excès du juste. Il dit, « Ne sois pas juste à l'excès et ne te fais pas trop sage. Pourquoi te perdrais-tu? » Pour bien interpréter ce verset, nous devons d'abord nous poser la question suivante. Est-il possible d'aimer le Seigneur trop chaleureusement? Est-il possible d'honorer Dieu trop hautement? Est-il possible de servir Dieu trop fervemment? Est-il possible de se confier en Dieu trop fortement? La réponse est catégorique et définitive. Un non catégorique. Alors, que peut vouloir dire être juste à l'excès? Si nous parlons des païens, nous croyons que cela pourrait vouloir dire d'éviter le formalisme et l'hypocrisie dans la religion et prétendre à obtenir la faveur de Dieu et le salut par les œuvres. Que l'on se rappelle les pharisiens du temps de Jésus et de certaines prétentions du catholicisme qui affirmaient qu'il était possible d'avoir des œuvres surérogatoires, c'est-à-dire qui vont au-delà de ce qu'on était obligé de faire. Et on va regarder maintenant un autre verset dans Matthieu chapitre 5, verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Alors on a regardé qu'est-ce que la phrase « ne soit pas juste à l'excès » peut vouloir dire, on vient de regarder, si on parle des païens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Maintenant, si on parle des chrétiens, puis on lit la même phrase, si on parle des chrétiens, nous pensons qu'il s'agit du péché d'avoir une trop haute opinion de soi-même, soit pour juste à l'excès. Romains, chapitre 12, verset 3, nous lisons, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Un autre passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » On va aller regarder aussi Deutéronome, chapitre 29, verset 29. « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Et on a aussi Colossiens, chapitre 2, verset 18 et 19. « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Donc on a regardé un peu le sens du verset 16, les excès du juste ne soient pas juste à l'excès, et ne te fais pas trop sage, pourquoi te perdrais-tu? On voit qu'il y a vraiment l'idée de pourquoi te perdrais-tu, c'est que ça peut c'est pas une bonne idée d'aller dans ce sens-là, ni de la part des païens, ni de la part des chrétiens, comme on vient de voir le sens. Maintenant, dans le verset 17, on parle des excès du méchant. Il dit, ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois point insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Alors, les deux versets finissent par une question. Pourquoi te perdrais-tu? Et le verset 17, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? La Bible nous donne des exemples de personnes méchantes qui sont allées loin dans leur méchanceté. On pourrait prendre l'exemple de la malice de Aman dans le livre d'Esther, au chapitre 7, et versets 7 à 10. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Aman. » Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Donc, quand on dit « mourir avant ton temps », c'était un homme qui était... Il y avait la richesse, il y avait la puissance, il était respecté, mais ça ne lui était pas suffisant. Et dans sa folie, il a fait des choses qui lui ont coûté la vie, qui ont fait en sorte qu'il est mort avant son temps, comme on dit. On peut prendre un autre exemple, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, l'orgueil d'Hérode. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, les versets 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Un autre exemple qui est mort avant son temps par sa méchanceté à l'excès. Et il y a le danger aussi des insensés. Nous lisons dans le psaume 53, le verset 2, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Alors le verset 18, lui, il va dans le sens de donner un remède à la fois contre les excès du juste et à la fois contre les excès du méchant. Dans le verset 18, ça dit « Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges pas cela, car celui qui craint Dieu sort de toutes ces choses. » Les Saintes Écritures nous enseignent que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. On va aller voir dans Proverbes au chapitre 1, le verset 7. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et on a aussi un petit peu plus loin dans le livre de l'Ecclésiaste, au verset 13 du chapitre 8, nous lisons « Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. » Donc, on va regarder la troisième idée, c'était dans les versets 19 à 22. Autrement dit, on va regarder l'avantage du juste, mais que cet avantage-là a quand même des limites. Alors, l'avantage du juste est donné dans le verset 19, et c'est vraiment la force. ça dit, verset 19, on le relit, « La sagesse donne plus de force aux sages que 10 gouverneurs qui seraient dans une ville. » Dans Proverbe 24, verset 5, nous lisons « Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. » Avec la sagesse, nous nous plaçons sous la protection omnipotente de Dieu. On va aller voir un exemple dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, les versets 14 à 17. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc c'est vraiment c'est la force que Dieu donne en utilisant sa sagesse et aussi que Dieu donne aussi parfois pour montrer que même quand l'homme n'a pas la force qui lui est donnée, la force de Dieu est là, la force omnipotente de Dieu qui le protège est là. Maintenant, on va regarder la limite du juste dans le verset 20. Le péché rémanent. Le péché rémanent, c'est le péché qui revient de façon régulière. Quand on est de nouveau, que le Seigneur nous donne la vie éternelle, nous donne l'esprit pour la direction de nos vies, c'est sûr que normalement, la qualité de nos vies va changer. Il y a des péchés grossiers qui vont être abandonnés. Mais on sait aussi que par l'expérience, surtout si on a quelques années d'expérience dans la vie chrétienne, on sait que le péché va demeurer en nous jusqu'à notre décès. Et il va chercher à prendre le plus de place possible et à s'exprimer le plus possible. Donc, la limite du juste, donc l'avantage du juste, c'est la force, mais elle a quand même des limites. Et les limites, c'est le fait que le péché revienne. Même après le salut, on sait que le péché a encore de la force dans nos vies. On va regarder deux passages. La première épître de Jean, au chapitre 1, les versets 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. On va aller regarder aussi le psaume 130, les versets 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et les versets 21-22, les limites, c'est que le Seigneur veut qu'on se... la remémoration du juste, c'est que le parler en mal perdure. Dans le verset 21 et 22, on va aller regarder d'abord le verset 21. « Aussi, ne fais point attention à toutes les paroles qu'on dira, de peur que tu n'entendes ton serviteur parler mal de toi. » Alors ici, c'est vraiment l'idée de regarder de comment se comporter si c'est les autres qui parlent en mal de nous. Alors, le parler en mal chez les autres, alors nous avons tous expérimenté le fait que des personnes parlent mal contre nous et la douleur que nous ressentons alors. Nous ne devons pas avoir, nourri le ressentiment envers ces personnes, car nous savons que tous les hommes sont pécheurs et que le péché de la langue se pratique constamment. Alors la raison pour laquelle on se devrait de ne pas porter trop attention à ceux qui parlent en mal contre nous, c'est de se souvenir que nous-mêmes, des fois, on parle en mal contre les autres. Et on va aller regarder un passage plein de sagesse dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, et versets 5 à 10. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, on regarde dans le verset 21, c'est vrai, vraiment le mal, le parler en mal, mais qu'on observe chez les autres. Maintenant, le verset 22, et il parle du parler en mal de notre part envers les autres. Dans le verset 22, ça dit « Car ton cœur a reconnu bien des fois que toi aussi, tu as mal parlé des autres. » Je pense que n'importe qui ça fait quelques années qui est dans la vie chrétienne, peut facilement témoigner de la vérité de cela. Notre conscience nous rappelle régulièrement que nous péchons par la langue envers notre prochain. On va aller voir dans le livre des Psaumes, au chapitre 38, des versets 12 à 14, on va voir que le roi David a grandement expérimenté ce mal-là de faire parler contre lui. Alors il dit dans le verset 12, « Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés. » Et médite toujours des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Alors, s'il y a un homme qui a connu ce que c'était, fait parler en mal contre lui, c'est bien le roi David. On peut lire aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre de Tite, au chapitre 3, les versets 2 et 3. Où il nous dit de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Alors, je pense que, sans aucun doute, la règle biblique à suivre, c'est d'avoir de l'indulgence pour le péché des autres et de l'impitoyabilité et de l'intolérance pour notre propre péché. Alors, on va aller regarder trois applications à partir de cette brève étude aujourd'hui du livre de l'Ecclésiaste. Première application. Apprenons sur les décrets providentiels dans la vie des hommes. Nos circonstances sont insondables, imprévisibles, incompréhensibles et mystérieuses. Seulement dans l'éternité les comprendrons-nous et y verrons-nous toute la sagesse de Dieu. Alors on a vraiment dans le psaume 113, versets 11 à 17, un passage qui nous parle pour un juste de la difficulté de comprendre parfois que les êtres méchants semblent avoir un meilleur sort que le nôtre. Versets 11 à 17. Et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Alors, le verset nous dit vraiment que des fois, on regarde les méchants, ils ont l'air à prospérer, ils ont l'air à pas avoir de problème, mais il dit, il a réfléchi là-dessus, puis il a eu la difficulté, mais qu'est-ce qui a réglé son indignation? C'était lorsqu'il a considéré, il est rentré dans le sanctuaire de Dieu et qu'il a considéré le sort final des méchants, dont on sait que c'est l'enfer. Deuxième application, prions le Seigneur de nous donner la crainte de sa personne. C'est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour éviter les excès, tant des justes que des méchants. Et troisième application, implorons Dieu de nous faire grâce dans l'usage de nos langues et de réagir sagement lorsque les autres nous font du mal par leur langue. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.
Amen.